Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Franck. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci, bonjour.
Alors, tu es le PDG du groupe FHB. Tu as pour volonté d'être un créateur de liens sociaux et aujourd'hui, tu as la gestion de 15 établissements. Et tu engages combien de personnes à temps plein ?
Une centaine de salariés.
Ça fait maintenant 5 ans que je suis à Strasbourg et je pense que tu es le premier entrepreneur dont j'ai entendu parler, en bien et en mal. Alors, par exemple, Pasquine, la directrice d'incubateur, disait que tu avais changé en bien Strasbourg et que tu engageais beaucoup de personnes, donc c'était plutôt cool. Thierry, le CEO de Bigelstein, m'a dit que tu faisais beaucoup de choses extraordinaires pour les SDF. Et Arthur, du Labo Food, m'a dit tu dois absolument lui passer le bonjour, n'oublie pas. Et je veux savoir, mais qu'est-ce que tu avais apporté à Arthur du Labo Food pour qu'il insiste autant.
Qu'est-ce que je lui ai apporté je l'ai hébergé. J'ai hébergé son entreprise quand il s'est lancé. Il était en recherche de locaux et c'était un jeune entrepreneur dans la restauration. Et il n'avait pas les moyens de pouvoir s'acheter un local. Donc il a eu une idée de faire ce qu'on appelle une dark kitchen, d'avoir son restaurant dans une autre entreprise et dans un appartement en fait. Et donc je lui ai prêté un appartement pour qu'il puisse lancer son idée.
D'accord. Il y a aussi des gens que tu détestes, je pense que tu le sais.
Que je déteste ou qu'ils me détestent.
Non, qui te déteste. Quand moi je parlais de l'idée de t'interviewer, il y a des gens, ils étaient genre non, pas lui, nanana. Je disais mais on se connaît pas, pourquoi tu me dis non? Et en fait, il y a une métaphore un peu en France que j'aime bien donner, c'est que quand on travaille et quand on réussit, un Français regardera la voiture du voisin et se dira c'est pas normal, pourquoi il y a une voiture comme ça, alors qu'en Amérique, il se dira waouh, bravo, maintenant je vais bosser pour avoir la même. Et comment tu avances alors qu'il y a quand même pas mal de critiques?
Alors, pendant longtemps, j'étais avec ma petite Clio fourgonnette, donc je ne pense pas que ce soit la voiture qui dérangeait forcément les gens. Et je circule encore énormément à vélo, c'est d'ailleurs quasiment mon seul moyen de circuler sur Strasbourg, sauf quand je suis obligé de me déplacer dans le Haut-Rhin, là où on a également un petit établissement. Les critiques, oui, je les vois passer. Je les vois passer sur les réseaux sociaux ou quand des fois on parle de ce que l'on a entrepris. Je vois bien que de temps en temps, il y a de la haine des fois qui se dégage de certains commentaires. C'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre parce que des fois, on trouve qu'il y a des choses qui sont injustifiées. Heureusement que c'est contrebalancé par des gens qui m'aident, qui trouvent qu'on fait des choses bien, même peut-être certains qui admirent notre travail. C'est difficile à savoir pourquoi est-ce que les gens détestent ou ont de la haine comme ça. Peut-être parce qu'on entreprend beaucoup et que les gens ont l'impression qu'on est un petit peu une espèce de gros mastodonte, alors qu'ils ont oublié ou qu'ils ne savent pas tout simplement d'où je viens et le départ de tout ça qui était une pauvre pizzeria rue du Faisan où il n'y avait rien. Et donc, je crois qu'ils ne connaissent pas l'histoire du groupe et de son évolution. Et s'ils savaient d'où on est parti, je pense qu'il y aurait sûrement moins de haine, peut-être de jalousie. Et puis, il y a sûrement un petit côté aussi très timide de ma part qui fait que je me renferme un petit peu aux autres. Et c'est peut-être ça aussi qui peut parfois déranger.
Et justement, je voulais savoir un peu le début. C'était il y a 20 ans, donc tu as acheté une pizzeria, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouverture le 21 juin 1998. Une pizzeria rue du Faisan, 40 places assises, quelque chose dans le genre. Et puis c'est une aventure qui a duré 5 ans. Oui, on peut vraiment parler d'une aventure, une galère pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous avez du mal à finir les fins de mois, du mal à pouvoir rembourser le banquier, du mal à se payer, du mal à... beaucoup de mal. Et on apprend sur le tas un métier que je ne connaissais pas, dans lequel j'ai voulu me lancer sans avoir aucune formation là-dedans, puisqu'à la base, je suis un scientifique. Et donc, il m'a fallu 5 ans pour apprendre, pour galérer et surtout respecter mes engagements. C'est-à-dire que comme j'avais fait un emprunt auprès de la banque, j'ai eu la fierté de vouloir le rembourser jusqu'au bout. Et c'est justement le fait d'avoir remboursé jusqu'en bout, jusqu'au dernier euro, que derrière les banques ont souhaité me suivre sur d'autres projets qui ont été de plus grande réussite que celui-ci.
Ouais, parce qu'en fait, moi, avec mon recul d'entrepreneurial et ce que je vois et à force, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu vois, c'est facile pour lui d'avoir des locaux. » Mais je me dis « Mais en fait, quand, par rapport à la banque, mais quand on arrive à montrer à un banquier qu'on a une affaire qui tourne, c'est beaucoup plus facile d'avoir, je pense, un autre local et continuer. »
En fait, l'histoire de cette première expérience, et c'est en ça où les banques m'ont suivi, c'est que moi, je n'étais pas caution personnelle, j'aurais pu planter la banque à n'importe quel moment, mais je me suis dit que si je faisais ça, ils ne me suivraient plus jamais pour l'avenir. Et donc, la banque a même été obligée de me reprêter à un moment donné de l'argent. Je leur ai demandé, et ils ont bien accepté. La question de mon banquier à l'époque, je me rappelle, monsieur Henke, c'est d'ailleurs grâce à lui que je suis là aujourd'hui, entre autres. Mais il m'a demandé, mais comment est-ce que vous allez me rembourser ce prêt complémentaire? Et je lui ai dit, ben, en fait, on va ouvrir également la nuit, le restaurant. Donc, on était ouvert le service du midi, le service du soir, et puis après, j'allais dormir 3 heures, et puis on réouvrait encore de 4 heures du matin à 7 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Et donc, et tout ça en dormant 3 heures. Et un jour, à 5 heures du matin, mon banquier est venu pour boire un café, pour voir si ce que je lui avais dit était vrai. Et effectivement, il était là, on a pu échanger. Et grâce à ça, ça nous a permis de développer ce petit chiffre d'affaires qui nous manquait pour pouvoir assumer nos engagements financiers. Et c'est comme ça que l'histoire s'est bien finie. C'est-à-dire qu'on a réussi à rembourser tout le monde, on a réussi à revendre l'établissement et mon banquier m'a suivi sur un autre dossier.
Et c'était quoi le deuxième?
C'était le bar La Java qui était juste en face.
Je vois pas du tout ça parce que ça.
Alors c'est un bar maintenant qui est un bar à rhum. C'est en sous-sol.
C'est le
Barberousse. Voilà. Ouais, tout à fait. Maintenant ça s'appelle le Barberousse, mais pendant des années ça a été un bar très connu qui s'appelait La Java, grosso modo. Dans les années 90, il n'y avait que deux bars, il y avait principalement deux grands bars mythiques sur Strasbourg, c'était la Java et les Aviateurs qui étaient juste à côté également.
Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que depuis 10-15 ans, Strasbourg s'est embelli. En fait, avant, ce n'était pas si bien que ça.
Il y a eu une mutation de toute la partie restauration et bar. De fou en l'espace de 20 ans. Il est sûr que Strasbourg, mais pendant longtemps on l'a qualifiée de la belle endormie, et c'est sûrement pas pour rien qu'elle avait ce label-là. On était vraiment à la traîne sur beaucoup de concepts, d'idées, de nouveaux bars, de nouveaux restaurants. Peut-être que la population n'était pas prête, peut-être qu'il n'y avait pas d'entrepreneurs, et c'est vrai que c'est sûrement le coup de chance que j'ai eu, c'est que je suis arrivé à ce moment-là où ça ronronnait un petit peu, et en même temps les gens avaient besoin de changement, avaient besoin parce qu'ils voyageaient de plus en plus et puis ils voyaient ce qui se passait ailleurs. Et puis on leur a apporté ce qui se passait ailleurs. Il y avait plein de fois où moi, quand je voyageais, je voyais des établissements, je disais, ah tiens, ça manque à Strasbourg, ça manque à Strasbourg. Et maintenant, il y a plein d'établissements que l'on trouve sur Strasbourg. Et c'est sûrement ce qui nous a permis, nous, de grandir assez rapidement parce que il y avait des manques, et nous et plein d'autres entrepreneurs, hein, parce que il y a une dizaine de personnes, ou peut-être même plus, qui ont fait bouger Strasbourg, ont permis de pouvoir répondre aux attentes des Strasbourgeois.
Oui, parce que Sincèrement, quand il n'y a rien dans une île, ça donne pas envie d'y aller. En fait, il n'y a pas d'attractivité. Le tourisme, il peut faire ce qu'il veut, mais s'il n'y a pas de restaurant, pas de bar. On se rend bien compte que l'Île-de-Monnaie, on en a plein. Mais quand il fait beau, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de bars, qu'il vaudra le double tellement qu'il y a du monde.
Et Dieu sait que l'offre, pour autant, s'est développée en 20 ans. C'est sûr que on avait cette volonté, Strasbourg avait la volonté d'être une capitale européenne et se donner les moyens d'une petite ville de banlieue. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant longtemps, ça a été la guerre avec les eurodéputés qui préféraient Bruxelles à Strasbourg parce que on pouvait sortir, boire un verre, manger, qu'il y avait une offre qui était tout autre que sur Strasbourg. Et maintenant, je pense que Strasbourg a amplement rattrapé son retard. Et en plus, comme je vois tous les projets qui sont encore dans les tuyaux, je trouve que Strasbourg commence à avoir cette dimension de ville européenne.
Et pour ouvrir des nouveaux bars, avoir des nouvelles idées, des créations, donc tu t'inspires des pays que tu as visités, du voyage, tu vois ce qui se passe, tu dis oh, ok, je vais faire un truc comme ça. Ou
Ouais.
c'est toute une équipe derrière?
Alors d'abord, enfin, je suis pas seul, hein. Il y a plein de gens qui sont avec moi au bureau et qui m'aident, et heureusement qu'ils sont là, sinon on n'y arrive jamais seul hein, dans la vie. Hein. Là où on est, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu comme du rugby, c'est-à-dire que vous avez la personne qui est en avant avec le ballon, mais elle a besoin d'avoir toute son équipe derrière soi afin de pouvoir lui passer de temps en temps la balle et puis de continuer à avancer. Effectivement, c'est en me déplaçant à gauche, à droite, dans toutes les villes européennes. Moi, quand je visite une ville, je commence à la visiter par ses bars et ses restaurants. Je vais faire rarement les musées. Et du coup, c'est comme ça que je vois des choses et qu'on s'en inspire. Des fois, on fait un mixte de plusieurs choses.
Par exemple, la manufacture, tu t'es inspiré de quoi?
D'événements éphémères qui existaient à Paris, qui existaient également à Londres, à Copenhague. Et c'est en voyant ce lieu, en fait, parce qu'on avait répondu à un appel d'offres pour être lauréat à la manufacture de tabac, appel d'offres qu'on a perdu. Hein. On dit toujours qu'on rafle tout et qu'on gagne tout, mais en fait non, il y a plein de choses qu'on perd. On voit toujours que la partie visible de l'iceberg, hein, mais on voit jamais nos défaites, mais on en a également, bien évidemment, on a notre lot. Et en voyant qu'on avait perdu cet appel d'offres pour être dans la manufacture de tabac, bah, je suis retourné avec mes petits bras voir les gestionnaires du site en leur disant bah, voilà, on a perdu, maintenant ce qu'on voudrait, c'est en attendant, on pourrait peut-être faire un événement éphémère sur le lieu. Et notre idée a été acceptée par la CERS à l'époque.
J'avoue que c'était la folie, hein. J'habite à côté, hein. C'était vraiment mais bondé, les gens ils se battaient quasiment et tout, pour aller servir, c'était la folie, on a l'impression que c'était un nouveau Strasbourg.
Oui, ça a été la première fois qu'il y avait ce genre d'événement éphémère à Strasbourg. Et on est un peu aussi les spécialistes comme ça de ces premières fois, de pouvoir apporter du renouveau à Strasbourg et de faire en sorte que plus jamais cette ville ait le nom de la belle endormie.
Beaucoup d'entrepreneurs me disent que c'est hyper compliqué de trouver les locaux. Est-ce que c'est ça qui est le plus compliqué pour toi ou il y a autre chose qui est compliqué?
Je crois que c'est pas forcément de trouver des locaux qui est compliqué, c'est de trouver le local qui sera dans quelques années un bon emplacement. Aujourd'hui, quand on a racheté le Grenadier Grand Rue et qu'on en a fait le troquet des Kneckès, ce dossier-là, tout le monde l'avait en main et personne ne l'a pris parce que dans la Grand Rue à l'époque, on a complètement oublié que le soir, il ne se passait rien du tout. C'était soi-disant la rue où il n'y avait que des doneurs kebab. Et aujourd'hui, 5 ans après, tout le monde se battrait pour avoir un local Grand Rue. Et il y a 5 ans, beaucoup d'entrepreneurs auraient pu se lancer dans la Grand Rue et ils auraient eu des locaux pas très chers d'ailleurs. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que quand on se lance, quand on n'a pas les moyens d'être dans les premières rues, dans les rues les plus fréquentées et qui coûtent du coup plus cher, c'est d'avoir cette réflexion sur c'est quoi la ville de demain et où est-ce qu'il faut investir, où ça me coûtera moins cher, ça sera beaucoup plus abordable pour moi et que demain ça sera une bonne opportunité. Nous, dernièrement, on a repris un établissement qui s'appelle le Coin des Kneckes, qui est juste à côté de la gare, qui est rue. J'oublie d'ailleurs l'adresse, c'est.
À la gare.
C'est à la gare, voilà, c'est derrière la gare, dans des rues et qui sont un petit peu, peut-être pas très passantes aujourd'hui. Et nous, notre pari, c'est de penser que cette partie-là sera un jour piétonnisée, parce que je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Et le jour où ça sera le cas, et ben ces commerces prendront de la valeur et il y aura encore plus de gens qui se baladeront. Et d'ailleurs, j'encourage tous les entrepreneurs à aller se balader dans ces rues-là, parce qu'il y a plein de locaux qui sont fermés, qui sont disponibles, et qui sont pas chers, et qui sont, à mon avis, les pépites de demain.
C'est un peu négatif pour certains, mais positif pour d'autres. Je pense que ben là, le troisième confinement, il y aura des opportunités pour beaucoup de personnes. C'est la fermeture d'établissements. Enfin, c'est malheureux, mais pour ceux qui ont peut-être rêvé un jour de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la restauration, je me dis que c'est pas mal.
Je crois pas à ça. Je crois
Non?
pas qu'il y ait demain beaucoup d'établissements qui seront sur le marché liés à la fermeture liés à la crise du Covid et à leur fermeture. Les aides de l'État, les 20% ou les 10 000 euros vont faire en sorte que ces entreprises devraient ne pas déposer le bilan et devraient survivre avec la vente à emporter, avec des choses comme ça. Donc, je crois pas trop une fermeture et des opportunités liées à un marasme économique dans nos métiers, même si c'est difficile, bien évidemment, hein. C'est difficile pour nous, on perd de l'argent tous les mois, mais sur des petites structures, il y a quand même des aides qui sont relativement conséquentes avec le chômage partiel, et je ne pense pas que ce soit ça. Par contre, il y a peut-être des opportunités de changement de vie. Des gens, peut-être moi d'ailleurs aussi le premier, qui vont se dire que suite à ces confinements, il y aura des gens qui vont vouloir voir leur vie autrement, tout simplement, et peut-être du coup vendre leurs affaires. Et là, il y aura peut-être des choses à faire, oui.
Et toi, t'as remis ta vie en question?
Ouais, je crois qu'il faut en parler au passé, au présent et sûrement au futur, ouais, bien sûr, ouais. J'ai remis, je remets et je vais remettre ma vie en question, ouais, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il y aura pour ma part un vrai changement d'avant et d'après Covid. Ouais.
C'est quoi le restaurant dont t'es le plus fier?
Pense que les restaurants, enfin je dis les restaurants, parce que
S'il y a une enseigne, je sais pas, un
ouais,
truc
c'est pas les
qui...
restaurants, parce que d'abord bon, on a aussi des brasseries, des
Oui.
bars, donc. Mais je pense que c'est un petit peu comme des enfants, on a du mal un peu à choisir et on a sûrement plus d'attention pour le dernier-né, mais sinon plutôt fier de tous les établissements, même de ceux qui ont été des échecs, parce qu'ils m'ont appris aussi d'autres choses. Et chacun dans leur style, chacun dans leur emplacement, chacun dans leur approche, m'ont fait évoluer, m'ont apporté du bonheur, m'ont apporté des fois de la tristesse. Mais je suis fier de tout ce que j'ai entrepris en bien ou en mal.
Le dernier, c'est le météore.
Alors, c'est toujours compliqué de parler du dernier parce qu'il
Pas
y a
d'amour
le
en fait.
dernier ouvert, il y a le dernier qui est en travaux, il y a le dernier qui est en rénovation. Donc,
On va dire sur pied, qui a été ouvert au public.
le dernier ouvert au public, oui, c'est le Météore. Et avec deux autres ouvertures prévues là cette année. Et également des gros, gros travaux et une grosse rénovation sur un établissement au Wacken qui s'appelle le Vokeisel.
Je me demandais, le Café des Anges, il t'appartient ou il t'appartient pas?
Non, il ne m'appartient pas. Il appartient à deux frères jumeaux, que tout le
Serge,
monde a, les frères Gilles, qui s'appellent, que tout le monde surnomme les jumeaux. Voilà.
d'accord, parce que
Non,
donc,
non, tout ne m'appartient pas sur Strasbourg,
oui,
et
non,
tant mieux
mais
d'ailleurs.
des fois, déjà, est-ce que c'est à lui le Barco Latino?
Le Barco Latino, oui, c'est nous.
Encore. Tu l'as déplacé à Malraux?
On m'a demandé de le
Ah, on
déplacer,
t'a
oui.
demandé.
La ville et les Voies navigables de France m'ont demandé de partir du Quai des Pêcheurs pour aller à côté de Malraux, à côté de la bibliothèque, oui.
Mais la rafio.
Le Rafio,
Ah, c'était, c'est pour ça.
c'était à moi et
Parce
je
que
l'ai
t'en as mis
revendu.
trois, non?
Oui, oui. On avait quasiment tout le quai. La mauvaise langue parlait même du quai Meunier à cette époque-là. Et du coup, j'étais content de revendre le Rafio pour faire mentir ces mauvaises langues.
Stratégiquement, le mettre à Malraux, c'est bien ou pas? Parce que là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui va se dynamiser un jour.
Bah, stratégiquement, ce n'est pas une stratégie de ma part, puisqu'on me
Pas le
l'a
choix.
imposé. Si j'avais dû choisir, je serais resté Quai des Pêcheurs. Aujourd'hui, l'emplacement Quai des Pêcheurs était mieux que celui de Malraux. Par contre, celui de Malraux est en devenir. Ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on est arrivé là-bas, on était le premier bateau. Puis il y en a eu un deuxième, puis maintenant un troisième. Il y en a un qui a fermé, qui va réouvrir. Et donc, dès que les trois établissements seront en fonction, que peut-être l'arrivée d'un quatrième établissement, c'est un quartier qui va se développer parce qu'on est sur les fronts de Neudorf. Et il y a tout le Neudorf qui, au lieu d'aller jusque en ville, va pouvoir venir jusqu'à ses bateaux et puis consommer. Donc oui, c'est un endroit qui n'était pas stratégique à l'époque, mais qui est en devenir très sérieux.
Ouais, c'est aussi des coups de chance en fait.
Oui, il faut un petit peu avoir de chance dans la vie. Après, plus on entreprend et plus on peut en avoir, et plus on peut aussi également avoir des échecs. Hein.
On me dit souvent qu'il manque un truc encore à Strasbourg. Est-ce que toi, tu as l'impression de ça? Je sais pas quoi. Tout le monde me dit ouais, Strasbourg c'est bien, mais il manque un truc.
Il manque quoi?
Justement, je me dis. Je trouve que les gens font un peu tous les mêmes choses. Connais qu'il y a l'idée, il y en a, tout le monde suit. C'est assez marrant. Donc, après, c'est en vision, moi, de cliente, et quand je vois ce qui ouvre, etc. Et je vois pas tout. Hein, donc, moi, je vois le sommet de l'iceberg. Mais on dit, ouais, pas assez d'audace à Strasbourg. Comparé, ben, après, on est toujours comparé à d'autres villes, hein, genre Lyon aussi. C'est pas la même chose.
Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à Strasbourg. Bien évidemment qu'on peut dire qu'il manque des fois certaines choses, mais il faut savoir également est-ce qu'il y a le public pour ça. Des fois, on vient me voir en me disant, ah oui, tiens, il n'y a pas d'endroit pour les trentenaires, quarantenaires. Bon, je dis oui, d'accord, mais bon, d'abord, il y a les aviateurs qui reprend un petit peu cette tranche d'âge, mais surtout, est-ce que ces gens, quand ils me disent ça, alors c'est souvent bien sûr des quarantenaires, je dis, mais vous sortez tous les combien? Ah ben, ouais, une fois par semaine et encore, des fois tous les 15 jours, est-ce que tu comprends, les enfants, le boulot? Je dis, ouais, d'accord, je dis, mais alors est-ce que du coup, est-ce qu'il y a un business model sur quelqu'un qui va sortir une fois tous les 15 jours? Donc, il manque peut-être des choses, mais est-ce que Strasbourg, c'est les attentes des Strasbourgeois, et est-ce que du coup il y a un véritable modèle économique là-dessus? C'est parce que c'est pas le tout d'entreprendre, mais après il faut rembourser. Et est-ce que ça correspond vraiment à une attente? Donc c'est la première question. Puis après, les Strasbourgeois, ils veulent toujours que la ville bouge. Ils veulent plus d'animation, plus de bars, plus de restaurants, tout. Mais surtout pas en bas de chez eux. C'est que ils voudraient que Strasbourg bouge plus, mais pas en bas de chez eux, hein. Dans la rue d'à côté, en dessous de chez le voisin, mais surtout pas en bas de chez eux. Et c'est un des grands problèmes de Strasbourg, c'est que on voudrait plus d'animation, mais en même temps moins de bruit. Et c'est un petit peu le paradoxe de tout ça, c'est de trouver le juste milieu. De pouvoir satisfaire tout le monde, à la fois les gens qui viennent visiter Strasbourg, à la fois les riverains qui veulent que cette ville puisse bouger, sortir, boire un verre, manger tard le soir, tôt le matin, et en même temps avoir des gens qui habitent le centre-ville, qui ont des enfants et qui vont aller au travail le lendemain matin à 8 h et qui ont envie de pouvoir dormir la nuit. Donc c'est ce mélange des genres qu'il faut arriver à satisfaire, et c'est en fait un équilibre qui, des fois, peut être précaire. Donc, je trouve que dans l'état actuel des choses, on est pas mal sur Strasbourg. Il y a sûrement des quartiers qui peuvent encore se développer, comme je disais tout à l'heure, sur la gare, ou des choses qui sont où il y a peut-être moins d'établissements et où là, il y a encore des opportunités à développer et à animer cette partie de la ville. Parce que, comme je dis toujours, quand vous avez un bar ou un restaurant dans une rue un petit peu déserte la nuit, c'est quand même un phare dans la nuit, et c'est quand même un endroit où, quelque part, ça rassure un petit peu les gens. Et il n'y a rien de pire qu'une rue déserte dans laquelle il n'y a aucun établissement. Et quand vous avez un petit bar, un petit restaurant qui est ouvert jusqu'à minuit, 1 h du matin, je trouve quand même que c'est rassurant quand le soir vous rentrez et puis que vous voyez quand même cette lumière, que vous avez un minimum d'activité.
Mais il y en a qui râlent aussi parce que le Neudorf, c'est pas assez animé, etc. Mais pareil, c'est un problème, c'est un quartier très familial, etc. Donc si on vient avec les grands restos, je pense qu'ils vont râler.
Ben, c'est un quartier qui a toujours été pour dormir. C'est des gens qui sont allés là-bas pour prendre des appartements et puis dormir. Donc c'est sûr que si vous venez en bas de chez eux pour faire une discothèque, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur accueil là-bas. Maintenant, oui, il y a des choses à se développer. Il y a plein de petits établissements qui sont méconnus dans le Neudorf et qui, je pense, fonctionnent bien parce qu'effectivement, ils ont un vivier de clientèle en proximité très important.
Tu parlais d'échecs. Est-ce que toi, tu as un échec dont tu aimerais parler?
Des échecs, j'en ai eu plusieurs, mais je dirais que peut-être celui qui est le plus symbolique, et je trouve pour le monde de l'entrepreneuriat, c'est peut-être l'Étoile des Neiges. C'était un restaurant qui était à la Cruteno, qu'on a ouvert sur le restaurant Savoyard. J'adore la montagne et je m'étais un petit peu fait plaisir en pensant que tout le monde avait les mêmes attentes que moi. Donc j'avais fait un restaurant de fromage sur le thème Savoyard. J'étais très content de la décoration, j'étais très content de la nourriture. Pour autant, ça n'a pas eu le succès que j'imaginais. Pour plein de raisons, peut-être le nom, l'étoile des neiges. Est-ce qu'on va manger l'étoile des neiges en été? Peut-être que ça s'était appelé, je sais pas moi, la montagne, ou j'en sais rien. Peut-être que ça aurait peut-être mieux fonctionné. Et peut-être une attente également. Bref. Ça n'a pas été un succès, c'est comme ça. On a également des échecs. Et au bout d'un an et demi, et ben, on a décidé de tout arrêter et de refaire des travaux et de réinjecter un petit peu d'argent. Pas beaucoup à l'époque. On a remis 30 000 euros. Enfin, pas beaucoup. Ça reste de l'argent, mais au vu d'un établissement de restauration. Et on a surtout changé la déco, le concept, les tables, les chaises, la cuisine, ce qu'on allait proposer. Et on a appelé ça Mémé dans les orties. Et là, ça a été tout de suite un super succès pendant des années. Donc, je crois que cette symbolique d'essayer de rebondir sur un échec et puis de ne pas s'entêter et surtout d'essayer de trouver la sortie vers le haut. Et voilà, je trouve que cette étoile des neiges finalement était. Et toujours une belle histoire.
Mais ouais, j'avoue qu'un bar à fromage, enfin un restaurant à fromage en été, ça va être plus compliqué.
Je reste persuadé que ça peut fonctionner. Finalement, la cloche à fromage fonctionne bien. Il y a des établissements comme ça. Peut-être que le positionnement également que l'on avait mis, parce que le fromage reste un plat cher, un peu comme la viande. Dans la Cruteno, par rapport à un quartier étudiant, peut-être qu'on n'était pas assez bien positionné. Avec du recul, je l'aurais sûrement positionné différemment, genre. Faite d'après-ski dans les montagnes, et là on aurait eu sûrement un succès plus important. Et l'établissement qu'on avait créé aurait peut-être eu plus sa place dans l'hypercentre de Strasbourg ou à la Robertsau, parce que le ticket moyen était peut-être plus élevé. Donc voilà, des erreurs de jeunesse.
Mais après, voilà, le principal, c'est de rebondir et le changer. J'avoue qu'il y avait tellement de monde chez Mémé dans les orties, et là, maintenant tu ne l'as plus, c'est.
Non, j'ai vendu, ouais. J'ai vendu
C'est
Mémé dans les
plus.
orties, ouais.
C'est un truc espagnol, je sais plus.
Ouais, c'est ça, ouais. Sud-américain.
Et comment tu fais face justement au Covid? Comment on réagit quand on doit tout fermer, une fois ça ouvre, une fois ça referme, on sait pas trop, ils nous donnent des dates.
Je pense qu'on est un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité, et c'est sûrement ça qui est le plus difficile pour un entrepreneur de ne pas avoir de visibilité. Il est sûr qu'on apprend des choses et en même temps de tout ça, et on est un petit peu à l'aveugle. Lors du premier confinement, je m'étais dit, bah tiens, si tout s'arrête, je vais pouvoir faire plein de choses. Et au final, je me suis aperçu que j'avais pas fait grand-chose de ce que je pensais faire. Le temps passe à une vitesse de fou et finalement, on est dépassé par cette non-action. C'est sûrement plus de choses en étant ouvert qu'en étant fermé. Le Covid, c'est notre guerre à nous. Nouvelle génération, une guerre avec des virus. Je ne sais pas comment on s'en sortira à la fin parce que quand je vois tous ces variants qui arrivent, quand je vois. Puis on nous explique maintenant que peut-être que certains vaccins vont peut-être pas fonctionner là-dessus. Donc je crois qu'il va falloir apprendre à vivre avec comme une grippe et qu'à un moment donné, on va devoir réouvrir parce qu'on ne pourra pas faire autrement et puis qu'on mettra plus de lits d'hôpital, de réanimation en lits d'hôpital et puis on aura plus de vaccins et puis il va falloir apprendre à vivre avec tout simplement. Et aujourd'hui, on a eu un petit peu de mal, on a eu un petit coup de mou. Là, ça fait un an qu'on tâtonne et à un moment donné on va sortir de ça, c'est pas possible autrement. De toute façon, ça ne pourra pas durer comme ça éternellement, surtout quand on voit les chiffres de ce que ça coûte à l'État. Et l'État, c'est nous. Il va falloir qu'on s'en sorte. Pour revenir à ta question, je suis partagé entre le fait que, de le subir, ce Covid, et du coup d'être un petit peu dans une forme de déprime, et en même temps de me dire que ça va m'apprendre plein de choses sur moi-même, déjà, commencer par ça, et de revoir les choses différemment, peut-être de revenir à l'essentiel, peut-être de ce que l'on est, de ce que l'on a, et peut-être revoir sa philosophie de vie.
Et t'as une philosophie de vie à nous partager que t'as apprise grâce à ça?
J'ai envie de dire carpe diem. Mm-hmm. Vivre l'instant présent. Peut-être qu'un jour, je me ferai tatouer cette expression. Oui, c'est ça. C'est vraiment vivre l'instant présent. Et puis, essayer de pas chercher ailleurs, des fois, des choses que, finalement, on a tout proche.
J'ai vu que tu avais offert des tartes flambées aux étudiants. C'est quoi? Trois fois, tu l'as fait? Non, deux fois.
Ouais, je crois qu'on l'a fait tous les lundis du mois de décembre. Mmh. Ouais.
Ça te tenait à cœur de le faire?
Alors, à la base, d'ailleurs, c'est pas mon idée. Hein. C'est une idée de quelqu'un de mon staff. De mémoire, je crois que c'est Jérôme qui a eu cette idée-là. Et après, bien évidemment, on a sauté sur l'idée. Oui, ça me tient à cœur parce que je suis très sensible à la cause étudiante, parce que j'ai traîné mes guêtres dans le monde étudiant pendant longtemps, pendant des années et des années. J'étais à l'AFGES en tant qu'étudiant, puis après en tant que salarié. Donc, j'étais à la Galia, au Caveau, j'ai eu une vie étudiante un petit peu plus longue que la moyenne, déjà parce que j'ai pris mon temps dans mes études. Et puis beaucoup d'investissements associatifs étudiants à cette époque. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu les queues, ces centaines de mètres de queues qu'il y avait au Minotaur pour la distribution de denrées alimentaires, j'ai trouvé ça fou. Et effectivement, tout de suite, on a foncé là-dessus, et Dieu sait que on a répondu à une demande, parce que il y avait un monde de fous. Ça faisait tout le tour du pâté de maison. Et si on avait pu, alors on a toujours dit qu'on distribuait 300 tartes flambées, mais en fait on en a distribué beaucoup plus parce que à la fin ça en finissait pas, les gens se rajoutaient, donc on était plutôt à 500 que 300, et on était obligé d'à un moment donné d'arrêter parce que par manque de matériel, et puis aussi parce que ça commençait à avoir trop de monde, pas assez de distanciation, et donc on commençait à avoir aussi des problèmes sanitaires. Et donc on a fait ça pendant tout décembre. En janvier, quand on a voulu se relancer, en fait, il y a eu le couvre-feu qui arrivait, et du coup c'était difficile parce qu'on a des fours au feu de bois, donc c'était difficile de mettre ça en œuvre sur le midi. Et donc on a arrêté, on a essayé d'aider différemment, mais ça reste une population qui est très très touchée par cette crise sanitaire, qui est un petit peu les oubliés, parce que tous ces étudiants, ils ont, pour certains, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont des contrats d'extra, des CDI à temps partiel dans des établissements comme les nôtres, dans les brasseries, dans les bars, dans les restaurants. Le statut d'étudiant n'est pas compatible avec le statut de chômeur. C'est peut-être ça le problème qu'on oublie un petit peu de dire, et du coup il y a beaucoup d'étudiants qui se trouvent dans des situations très très précaires, et des fois aussi du coup ça débouche sur des drames. Ce sont des problèmes pour se nourrir, mais aussi des problèmes de leur vie s'arrête, les cours s'arrêtent, les liens sociaux s'arrêtent, il n'y a plus de bar, plus de restaurant, on ne se rencontre plus. Et quand on est jeune et qu'on veut rencontrer des gens, boire un verre, y a des gens qui se retrouvent en marge de tout ça, et qui des fois ont du coup des grands problèmes, des grandes détresses, et qui du coup font des actes qui sont irréversibles.
Thierry de Begelstein m'avait dit que tu faisais beaucoup de choses pour les SDF. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que tu ouvrais tes restaurants le jour de Noël. C'est vrai, c'est faux, ou j'ai compris à moitié
En fait, on fait beaucoup de choses, mais on évite de communiquer dessus. Et en fait, quand on fait pas, on nous reproche de ne pas faire. En tout cas, quand on s'appelle Franck Meunier, on reproche de ne pas faire. Et quand on fait, on reproche souvent de faire de la communication autour de ça et de me faire de la pub. Donc, du coup, j'évite de communiquer là-dessus. C'est marrant, j'ai eu une discussion une fois avec quelqu'un comme ça qui, sur les réseaux sociaux, m'avait attaqué. Et du coup, plutôt que de lui répondre sur les réseaux sociaux, je suis allé le voir et on a eu une franche discussion. Et je pense que je ne suis pas sûr qu'un jour il me recritique sur les réseaux sociaux sans en tout cas s'être d'abord renseigné de savoir ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Pour répondre un petit peu et lever un petit peu de mystère, enfin, il n'y a pas de grand mystère là-dessus. Il se trouve que à Noël, effectivement, on reçoit, alors c'est pas des ASF, c'est des enfants qui sont en foyer et qui n'ont pas de famille. Et du coup, on leur organise tout quand on peut. On ne l'a pas fait cette année. On organise d'ailleurs, avec la femme qui partage ma vie, Nathalie, un repas avec des cadeaux et des choses comme ça, donc pour les foyers, pour les enfants. Sinon, le reste de l'année, on travaille également avec des associations qui gèrent les SDF et on ouvre nos établissements pour pouvoir aller au WC, pour pouvoir recharger des téléphones portables. Voilà, suivant les établissements, on a pris quelques établissements un petit peu dispatchés, bien géographiquement parlant, et qu'il puisse y avoir un accueil. C'est pas évident, il faut dire aussi les choses comme elles sont, de pouvoir accueillir une certaine catégorie de personnes au milieu de clients, d'autres clients. Donc on essaye de se trouver ce juste milieu et de penser un petit peu à tout le monde.
Mmh. Oui, parce que les gens, je pense qu'ils sont comme tout, quand on essaie de faire quelque chose, une action, voilà, pour aider les gens, ils font « ouais, non, mais c'est pour la fame, il fait pas ça de bon cœur, en fait ». J'ai souvent vu ça pour toute action, en fait, genre généreuse, altruiste et humaine, que les gens, ils sont un peu facilement dans la critique. Mais en fait, toujours, j'ai l'impression que c'est vraiment le socle. Dès qu'on fait une action, les gens, ils sont là à dire « ouais, mais non ».
C'est pour ça qu'en fait, on communique pas dessus. On ne communique que quand on a besoin des gens. Par exemple, on faisait du coup pour les enfants des collectes de cadeaux pour pouvoir leur offrir des cadeaux au moment de Noël. Et donc à ce moment-là, on est quand même obligé de communiquer si on veut que les gens nous donnent des éléments qu'on puisse réoffrir. Et puis après, même d'ailleurs, sur la fin, on a de moins en moins communiqué parce que on faisait ça différemment avec des gens qui nous faisaient des dons de manière privée. On n'avait plus besoin de communiquer. On évite de communiquer le plus possible et c'est d'ailleurs souvent le cas pour aussi d'autres entreprises. Par exemple, le coup des tartes flambées. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés et pour la plupart d'ailleurs qui voulaient rester anonymes, qui nous ont fait des dons, qui nous ont aidés matériellement pour pouvoir étudier, aider les étudiants, mais qui ne souhaitaient pas communiquer dessus et qui voulaient être discrets. C'est vrai que en France, pour vivre heureux, il faut des fois vivre caché. Pour des fois faire de l'humanitaire, il faut des fois être caché parce que on reproche toujours tout et son contraire.
Mmh. Je me dis que pour avoir des dons, pour avoir des gens qui nous aident, c'est soit on a un gros réseau, on peut faire ça en interne, soit on n'a pas le choix, faut communiquer. Donc c'est un peu paradoxal.
Eh ben, j'essaye de faire ça en interne et de pas communiquer. Des fois, d'ailleurs, naturellement, il y a des gens qui toquent à la porte, qui me disent bah tiens, si je peux aider, n'hésite pas, tu peux faire appel à moi, si pour ci ou pour ça, voilà. Et du coup, ben, on passe les coups de fil qui vont bien. Tout comme des fois, on est contacté pour certaines opérations caritatives et des fois on donne suite, des fois pas, on peut pas tout le temps tout faire, mais des fois on nous demande de savoir si on peut aider sur l'une ou l'autre opération et quand on peut le faire, on le fait de bon cœur.
Et moi j'avais une question un peu bizarre, mais ça fait quoi d'être un peu comme l'entrepreneur strasbourgeois, d'être représenté comme Franck Meunier, genre tu es Franck Meunier, genre tout le monde te dit waouh, il a une expérience de dingue, j'aimerais tellement m'en inspirer. Tout le monde te qualifie comme personnalité strasbourgeoise.
J'avoue que j'ai du mal un petit peu à m'en rendre compte. J'ai l'impression toujours d'être un petit peu presque à mes débuts. Alors c'est pas le cas. C'est à la fois flatteur et en même temps Il y a une grosse pression. Ouais, je suis flatté et en même temps, j'ai tellement l'impression d'avoir fait peu ou pas assez. J'ai l'impression des fois d'avancer au ralenti, ce qui est manifestement pas le cas. J'aimerais juste redonner de l'énergie à des gens peut-être qui en manquent. C'est difficile à se rendre compte, en fait, parce que ça s'est fait sûrement petit à petit et que du coup, là, on arrive à un instant T. Alors, voilà, oui, je suis un entrepreneur, mais des entrepreneurs comme moi, il y en a quelques-uns sur Strasbourg. Et je suis peut-être même loin d'être le plus entreprenant, je ne sais pas. Il y a d'autres personnes, d'autres personnalités. Je crois qu'on a une belle... On a une belle ville qui est assez complète, avec beaucoup de gens qui veulent entreprendre pour cette ville, beaucoup d'amoureux de la ville de Strasbourg. C'est assez marrant, comme dans tous les niveaux de la société, dans tous les bords politiques de cette ville. En fait, je crois qu'il y a quand même un lien commun qui est l'amour de cette ville. Et c'est sûrement d'ailleurs moi ce qui a fait que je suis resté à Strasbourg, parce que je suis une pièce rapportée. Hein. Je suis venu juste pour finir mes études à Strasbourg et je ne suis jamais reparti. Je suis tombé amoureux de cette ville. Je crois que cette ville, elle a tout pour réussir. On a les montagnes pas loin, on a la mer. La mer.
C'est ce qui manque bien, c'est la mer.
Il manque peut-être la mer, mais en tout cas, on a Lille qui passe à Strasbourg. On a une ville chargée d'histoire et en même temps qui est innovante sur plein de domaines. Des grandes universités, des grandes écoles. On a également beaucoup d'écoles, par exemple dans la restauration, très très pointues et que beaucoup de gens nous envient. Je crois que cette ville a vraiment des atouts multiples et variés. Et je crois que c'est sûrement une des plus belles villes de France.
Donc, sache-le qu'auprès de beaucoup d'entrepreneurs et de CEO que je connais, même de start-upers qui ont des grosses start-up, tu représentes un peu la personne entrepreneur de Strasbourg et qu'ils aimeraient entendre et peut-être voir plus, je ne sais pas, mais tu es vraiment quelqu'un dont tout le monde connaît le nom. T'es comme un peu, je sais pas, un mentor ou fais partie des gens qui ont, pour eux, réussi. Et les gens qui ont 25-30 ans, ils espèrent avoir un peu ta carrière. Enfin, avoir tracé quand même une vie entrepreneuriale et d'avoir eu des échecs et d'avoir continué malgré tout.
Merci, c'est flatteur, c'est limite un petit peu gênant. Ouais, je leur souhaite même d'avoir une meilleure réussite que la mienne. Mais après... La réussite, c'est toujours très, très relatif. C'est quoi la réussite? En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que la réussite entrepreneuriale, c'est une chose. Après, il y a la réussite de la vie. Et je souhaite à tout le monde d'avoir surtout une belle réussite de vie. Et celle-ci, elle ne se mesure pas au nombre de zéros sur un compte en banque. Donc, je crois que surtout par les temps qui courent, il est important de penser plus à une réussite de vie.
Alors moi, je voulais savoir, quel est ton plus grand défaut?
Ma timidité, c'est assez paradoxal parce que des fois, je peux avoir une grande gueule et en même temps, peut-être être extraverti, mais ça, je pense que c'est juste pour me soigner. Mais quand je ne connais pas ou quand je suis dans un univers que je ne maîtrise pas bien, je me renferme un petit peu dans ma coquille. Je ne communique pas, je ne parle pas trop et du coup, les gens peuvent avoir l'impression que je suis... un peu hautain, et en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai du mal à communiquer, et cette timidité, mais que je soigne, hein, c'est sûrement mon plus grand défaut. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas faire dans ton métier?
Toute la partie administrative. Moi, je suis un bâtisseur, je suis un créateur, j'adore développer des projets et nous sommes dans une société qui devient de plus en plus administrative et toute cette partie-là, toute la gestion au quotidien ne me plaît que moyennement. Moi, c'est de créer, c'est de créer des nouveaux concepts, de créer de l'événementiel, de créer et après tout ce qui est un petit peu autour ou tout ce qui est après me lasse et ne me plaît pas vraiment.
T'aimes la partie avant et quand ça sort de terre? Et après, t'as embauché les gens qu'il faut pour le reste.
Pour le reste, j'ai embauché les gens qu'il faut. Puis après, surtout, ben, je passe à autre chose parce que j'ai toujours 50 idées à la minute et que dans mon cerveau, ça fuse et qu'il faut que j'entreprenne autre chose.
Et là, c'est sur combien de dossiers? Deux, trois établissements de nouveau? Mais deux cette année?
Là, il y a deux ouvertures qui sont dans les tuyaux, ouais.
Et t'as déjà communiqué dessus?
Ouais, plus ou moins, c'est un bar à vin alsacien avec uniquement des produits alsaciens qui sera rue du 22 novembre. Et puis un établissement qui va faire des petits produits italiens, un tout petit établissement avec une quarantaine de places assises qui sera également dans le même quartier.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager?
Allez, je vais raconter une anecdote vraiment très très honteuse. Très très honteuse de mon tout tout premier restaurant et de mon tout premier chef de cuisine qui pourrait faire partie des anecdotes de qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on ouvre son premier restaurant. Et il s'est trouvé qu'à l'époque, donc c'était une pizzeria et on faisait j'avais 27 ans quand j'ai ouvert ce restaurant, donc j'avais 27 ans. Et j'ai embauché un chef de cuisine italien qui avait une cinquantaine d'années. Un vrai chef de cuisine italien avec toutes les qualités et tous les défauts du chef de cuisine italien qui a 50 ans et qui est embauché par quelqu'un qui a 27 ans et qui n'y connaît strictement rien dans la restauration, donc qui est jeune et qui n'y connaît rien. Et un jour, mon chef de cuisine en fait s'est coupé. Et bien évidemment, il a mis un pansement. Et le soir, il y a une cliente qui m'appelle en mangeant sa pizza et qui me dit, Monsieur, il y a un problème, je crois qu'il y a un pansement dans ma pizza. Et en fait, le chef de cuisine s'était pas rendu compte qu'il avait perdu son pansement en faisant la pâte à pizza et il s'est retrouvé avec ce pansement dans la pâte et s'est retrouvé, ce pansement s'est retrouvé dans l'assiette. Et ça, c'était il y a 20 ans. Alors depuis, on a mis d'autres procédures en place pour quand on a ce genre de problème-là. Et les pansements sont interdits. Mais voilà, c'était il y a prescription maintenant. C'était il y a 25 ans.
Oui, voilà. Oui. J'ai un ami qui m'a raconté que son père, il a trouvé un ticket de caisse dans une glace d'un grand restaurant strasbourgeois, donc c'est pas mieux.
Ouais, alors une fois dans cette même période, moi aussi je m'étais coupé, j'avais mis à ce moment-là un pansement et j'ai perdu le pansement, j'avais fait des glaces et j'ai jeté toutes les glaces pensant que le pansement pouvait se retrouver dans une glace. Et du coup, j'avais tout jeté, tout refait de peur que ça. Du coup, ça m'a servi de leçon et j'ai fait énormément de prévention par rapport à tout ça pour plus que ça se reproduise.
Donc, depuis ça, plus de pansement interdit.
C'est ça, il y a des. En tout cas, on met un pansement et après, on rajoute par-dessus un gant en latex qui évite que tout on le perde. Voilà.
C'est toujours marrant, il doit dire, mais pourquoi on doit mettre un gant? Parce qu'il y a 25 ans, il a dû jeter toutes les glaces. De
Voilà, donc,
peur.
oui, c'était surtout face à cette cliente, ça a été la honte parce que vous êtes responsable de ça, hein, c'est vous le patron, et en même temps, c'est pas vous qui l'avez fait cette erreur, et pourtant vous devez l'assumer, et voilà, et puis en plus, avec le recul de quelqu'un qui a 27 ans, qui vient juste d'ouvrir son restaurant, et qui se retrouve comme ça, un petit peu à pas savoir comment prendre la chose.
J'ai peut-être coupé ça, mais genre anecdote de ouf pour ton premier restaurant. Genre, moi, on m'a dit, ouais, ce restaurant, c'était celui de ses parents, où il a racheté parce qu'il travaillait dedans. Trop de trucs, d'histoires. Des fois, on se dit, mais quelle est la vérité du vrai du faux? Et je sais pas si c'est toi le restaurant que tu l'as acheté ou on te l'a légué. Enfin, soit on te l'a légué, soit tu l'as racheté à tes pâtes. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a plein de versions de toi, Stras, ça c'est marrant. Tu peux
Non,
créer d'autres Franck Meunier, tu
bah,
vois.
disons qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur moi sans savoir, et voilà, et ça en fait partie des choses. Non, ce n'est pas un restaurant qu'on m'a légué. Non, il n'appartenait pas à mes parents. D'ailleurs, mes parents ne sont pas du tout de la région. Mon père était militaire et ma mère était agricultrice, donc tout ça en Touraine. Donc, ils ne sont pas du tout de Strasbourg. Non, on ne me l'a pas légué ce restaurant, et pour tout dire, même quand j'ai commencé à ouvrir ce premier restaurant, je n'avais que 10% du restaurant et 90% appartenaient à trois autres personnes. Au fur et à mesure, j'ai racheté des parts, enfin, j'ai racheté les parts en fait à un des actionnaires qui est sorti, et du coup, j'avais 50% de l'établissement. Voilà, et quand j'ai revendu l'établissement 5 ans plus tard, j'avais entre guillemets que 50%. Et après, j'ai volé de mes propres ailes tout seul sur l'établissement suivant. Donc, on ne m'a rien légué. J'ai tout emprunté. Même jusqu'à mon premier apport personnel, que je suis allé voir une première banque et j'ai fait un crédit à la consommation. Et la deuxième banque, je suis allé la voir en lui disant que j'avais ça comme apport personnel, ce qui est un peu interdit de faire ça d'ailleurs.
C'est ça que je comprends pas, c'est d'être tellement... arriver à être opaque en fait à tout ça. Opaque à toutes les personnes qui disent des choses que... J'avoue que des fois, on me critique, quand j'apprends des choses sur moi, j'ai envie d'y aller et les cogner. Donc, je me dis que c'est peut-être l'âge, le recul, l'expérience, le lâcher prise. Se dire que si on veut réussir, les critiques sont obligatoires.
C'est la société dans laquelle on évolue qui est comme ça, avec les réseaux sociaux. Les gens ont une facilité à pouvoir donner leur avis sans avoir forcément un besoin de rendre de compte. Et c'est d'ailleurs tellement plus facile d'écrire quelque chose sur son smartphone ou sur un ordinateur que d'aller voir la personne et lui dire les choses en face. Donc voilà, si malheureusement, j'ai envie de dire, c'est le revers de la médaille de la notoriété. Plus vous êtes connu, plus on parle sur vous, et plus il y a des gens qui ont l'impression de vous connaître ou qui ont l'impression de détenir la vérité, le savoir, et qui du coup déversent leur soi-disant savoir ou leur haine tout simplement de vous sur les réseaux sociaux. Et, ouais, c'est difficile. Et en même temps, c'est peut-être pour ça que de revenir un petit peu dans l'anonymat, pour vivre heureux, vivons cachés.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné, on me l'a donné dernièrement, en fait. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je prenne soin du petit garçon qui était tout au fond de moi. Voilà. Et c'est ce que je vais tâcher de mettre en œuvre dans les années à venir.
Ben, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.